Alors, les fonds d'artistes ou les fonds artistiques à l'IMEC, peintres, graveurs, dessinateurs, mais aussi des fonds de critiques d'art, d'éditeurs d'art, d'historiens, d'institutions, de revues hein, d'art, constituent un sous-ensemble à la fois modeste et important, une soixantaine de fonds, bon, sur les quelques 450 ou 500 fonds que nous avons à l'IMEC. Et parmi ceux-ci, parmi ces 60 fonds, une trentaine concernent des artistes, hein, genre des fonds monographiques, si on peut employer cette expression. Alors, j'aurais pu vous parler de la spécificité de ces fonds artistiques par rapport à des fonds littéraires, par exemple, le thème du redoublement de l'œuvre, par exemple, à côté de l'œuvre plastique, une œuvre écrite, épistolaire, destinée à la publication ou non, qui fait partie d'une stratégie, pour mettre un pied dans l'étrier de l'histoire de l'art. Ou non, mais ce n'est pas ce que on m'a demandé de traiter aujourd'hui. Alors, dans les fonds d'artistes ou les fonds artistiques, puisque je vais donner aussi un exemple d'une galerie d'art tout à l'heure, de l'action héroïque à la vie quotidienne, les témoignages qui concernent la Seconde Guerre mondiale dans ces archives, eh bien, couvrent, je dirais, tous les registres connus de cette époque troublée. L'homme traqué qui mourra dans un camp d'extermination, Otto Frönlich. Le héros, Jean-Hillon le soldat, Fougeron le résistant. Un certain esprit de résistance, c'est là qu'on parlera de la Galerie de France qui a été fondée en 1942, une galerie d'art. Et puis aussi la cruelle désillusion de certains, comme le critique d'art Valdemar Georges, qui a été fasciste. Grand admirateur du Duce, qui a à deux reprises fait des tournées italiennes, même rencontré en tête-à-tête Benito Mussolini pour lui faire part de ses projets franco-italiens de renouvellement de l'art et des institutions artistiques, et qui, en tant que juif, quelques années plus tard, sera traqué comme les autres, il devra se cacher, et donc vivra cette... disons, cruelle désillusion en ce qui le concerne. Donc, c'est un petit peu tout ça qu'on trouve, je dirais, en vrac dans les fonds artistiques. Du moins, c'est la présentation que je vous ferai. Alors, André Fougeron, issu d'une famille ouvrière, membre du Parti communiste à partir de 1939, très rapidement a été reconnu, a vendu des toiles, avait une carrière devant lui, si je puis dire, avec une peinture de tendance fauve et cubiste. Alors Fougeron, donc adhère au Parti communiste en 1939, pendant la guerre, il est tout jeune, il fonde en 1941 avec d'autres, avec Édouard Pignon notamment, le Front national des arts, qui sera un petit peu le pendant du Front national des écrivains, une espèce d'instance clandestine pour créer des liens entre artistes résistants. Et à la Libération, chose étonnante, on le retrouve pendant quelques mois directeur, du moins attaché au cabinet du directeur des Beaux-Arts. Et donc, il aura une tâche administrative de haut niveau jusqu'au moment où le général de Gaulle établira son gouvernement provisoire et que les communistes ne seront pas représentés dans ce gouvernement provisoire. Et il a été... pendant ce temps-là, chargé d'organiser l'épuration de la scène artistique française et aussi de préparer une expo qui fait date chez tous les historiens d'art, le célèbre salon d'automne de 1944, où Picasso a été le grand invité d'honneur. Voilà, donc, des exemples d'archives, hein, celles qui m'ont interpellé, qui m'ont intéressé. Gagner sa vie. C'est un contrat signé par Fougeron. On lui propose, le commissariat de lutte contre le chômage des artistes, lui propose la décoration d'une école primaire dans la ville d'Asnières. Donc, voilà une façon précaire de gagner sa vie en 1941. Et parallèlement à ça, dans son atelier, il transforme son atelier en imprimerie clandestine. Et c'est un petit peu le thème « Risquer sa vie tout en la gagnant ». Et voici, par exemple, des petits journaux d'humanité, les lettres françaises, hein, l'ancêtre enfin, des lettres françaises qui connaîtront une belle fortune, qu'on connaît tous, l'Université libre. Enfin, voilà des exemples de petites feuilles qui ont été imprimées à ses risques et périls en 1941, 1942, 1943, dans son atelier qu'il devra quitter, il devra changer de nom, fuir, etc. Pour gagner sa vie aussi, parfois il fait de la mise en page, par exemple pour comprendre les prisonniers, c'est publié par Le Seuil, par l'aumônerie générale des prisonniers. pour le communiste qui est Fougeron, le discours à l'intérieur de ce petit opuscule chrétien ne correspond pas nécessairement à ses idées, mais enfin, il y a un fond humaniste certainement partagé. Et voilà une peinture, le type de peinture que Fougeron faisait pendant la guerre, alors que nous n'avons pas, hein, ça c'est un tableau qui est dans une collection, chez une collection privée. Voilà, donc déjà un tableau militant, si vous voulez, Paris 43, la disette, les difficultés de la vie quotidienne, des enfants qui fouillent dans une poubelle, la maternité éplorée ou pauvre, en tout cas. Donc, voilà un petit peu de quel bois se chauffait notre ami Fougeron. Et après la guerre, donc en 1944, eh bien, il est chargé de l'épuration. Donc, on trouve dans ce fonds d'archives moult documents, des tracts anonymes ou pas, ici publiés par le Front National des étudiants, qui dénoncent ceux qui ont fait le fameux voyage en Allemagne, les artistes qui, en 1941, ont fait le voyage en Allemagne. Et sur une feuille à l'entête du secrétariat d'État de l'Éducation nationale et de la jeunesse, une liste des artistes qui ont participé à l'organisation, ou en tout cas au comité d'honneur du sculpteur allemand Arnaud Brecker, qui a fait une grande exposition à Paris. L'épuration sous Fougeron ne sera pas finalement très sévère. Il n'y aura qu'une sanction ou deux. Et tous ces artistes devront plutôt supporter une absence des cimaises pendant un certain temps. Rien, en tout cas, d'absolument dommageable à leur carrière. Et puis, Picasso, qui adhère au Parti communiste en 1944, c'est à l'instigation de Fougeron, là encore une fois. Évidemment, le parti va, bien que Picasso soit bien loin de tout réalisme, encore bien plus loin de tout réalisme socialiste et soviétique, donc fera grand cas de cette adhésion. Cette activité de Fougeron aura aussi quand même des implications, des conséquences dans les années après la Seconde Guerre mondiale, dans tout ce qui va s'appeler la guerre froide, finalement. D'abord, Fougeron va quitter sa manière un peu Picasso-fauviste, cubisto-fauviste, et en revenant d'Italie, après un séjour à Arezzo, il y a une anecdote formidable où il visite l'église San Francesco et sur il y a là un restaurateur qui essaie avec du scotch de remettre en place des bouts de fresques de Piero La Francesca qui se sont écroulées. Et donc, il a cette chance, Fougeron, en 1946, de monter dans les échafaudages et de voir de très près, à quelques centimètres, la reine de Saba en visite au roi Salomon. Et le camarade restaurateur s'absente quelques instants, et Fougeron dit dans une confidence à Jean-José Marchand, « Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis approché de la première servante de la reine de Saba et je l'ai embrassée sur la bouche. » Et je me suis dit, si une fresque de Piero La Francesca peut faire cet effet sur moi, est-ce que ma peinture ne pourra pas elle-même avoir un effet comme ça social chez les dans le peuple, si vous voulez. Et il peint notamment ce tableau ici qu'on voit en reproduction de carte postale qui s'appelle Hommage à André Houillet. André Houillet est un colleur d'affiche qui sera tué par la police, par un policier, le coup de feu, au début des années 50, à la fin des années 40. Et donc... Fougeron peindra ce tableau en couleur, hein, et quand on est familier un petit peu des fresques de Piero La Francesca, on reconnaît la rigidité de ces personnages, vous voyez, les vues frontales, les vues de profil, enfin bon, il y a de la Renaissance italienne dans la peinture militante de Fougeron. Fougeron, ça ira très loin, puisque au début des années 50, vers 1953, par exemple, il va peindre ce tableau. Alors là, c'est un tableau qui est à la tête de galerie, il faut des droits effrayants pour le reproduire aujourd'hui, il faut payer des droits effrayants. C'est assez étonnant. Vous voyez une voiture, c'est une dénonciation de l'impérialisme américain et de l'impérialisme français en Indochine. Alors, voiture américaine, soldat en embuscade, il y a à gauche alors le capitaliste chauve, les vieillards maigres qui n'ont pas d'argent, le cercueil qui vient d'Indochine, le soldat américain qui lit des magazines pornographiques. Enfin bon, vous voyez, et cette toile est absolument étonnante pour 1953. Il est un aïeul, si vous voulez, le préfigurateur de ce qu'on appellera dans les années 80, beaucoup plus tard, la figuration critique. Et vous voyez en haut une image du réalisme socialiste qui avait cours en Union soviétique, et vous voyez que les deux peintures... Voilà. Et donc, on a toujours, parce que, je ne l'ai pas dit, mais Fougeron a aujourd'hui traîne cette réputation encore aujourd'hui partout, dans les livres, les manuels, le peintre du réalisme socialiste à la française, ce qui, à mon avis, est tout à fait faux. Et j'espère avoir l'occasion de le démontrer dans une intervention ailleurs. Galerie de France, maintenant. Alors, en 1942, une galerie se fonde. Une galerie en tout bien, tout honneur, voilà, Paul Martin, son fondateur, on connaît très peu de choses de lui, c'est la seule photo qu'on ait pu trouver. C'est un industriel lyonnais, et qui n'est pas heureux dans son usine, et qui décide plutôt, il laisse à ses frères la gestion de l'usine, et il décide de fonder une galerie à Paris. Et donc, il lance une galerie tournée vers la jeune peinture, vers la modernité. Donc, une galerie de résistance, une certaine résistance intellectuelle, puisque, bon, on est à l'époque de l'art dégénéré. Et donc, présenter une exposition sur les fauves, c'était déjà un petit acte de bravoure, sinon de résistance. Hein. Vous voyez donc un exemple du dossier de presse, pas toujours bien reçu, évidemment, une ménagerie s'installe au Faubourg Saint-Honoré. Dans certains journaux, ici c'est au pilori, alors là, au pilori, hein, c'est certainement le plus radicalement antisémite, xénophobe, radical de tous les journaux publié à Paris durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, ces deux coupures de presse s'adressent à deux expositions de la Galerie de France. Hein, 12 fumistes d'aujourd'hui, c'est l'exposition 12 jeunes peintres d'aujourd'hui. Et la contre-offensive du printemps, c'est encore une exposition sur les peintres cubistes. Enfin, le cubisme associé au judaïsme. D'ailleurs, c'était tableau accroché, puisque ce sont les marchands du temple, etc. Enfin, tous les poncifs passent dans ces... Et puis, la Galerie de France, bien, ça a censuré, finalement, par les autorités allemandes. Chaque exposition devait avoir ce petit bon d'affichage, hein, qui permettait à la fois de faire le catalogue ou le dépliant, et puis de regarder en ville donc des affiches. Et donc cette exposition, ce projet d'exposition, on trouve dans les archives donc la maquette du catalogue qui ne sera pas réalisée, puisque l'exposition sera interdite par les Allemands pour cause de Picasso et de Léger, puisque là, on prévoyait accrocher à côté de jeunes peintres des tableaux de Fernand Léger et de Picasso, et pour cette seule raison, l'exposition n'aura pas lieu. Valmar-Georges. Alors, Valmar-Georges, je l'ai évoqué tout à l'heure. Voilà un autre fonds d'archives tout à fait paradoxal. Valmar-Georges est né à Lutsch, en Pologne, dans une famille juive bien intégrée à la bourgeoisie polonaise. D'ailleurs, sa famille était polonisante, si je puis dire. Il s'opposait à l'apprentissage du yiddish et à l'apprentissage de l'allemand également. Il faisait partie de ceux qui, en Pologne, voulaient imposer dans la Pologne russe, hein, on était dans la Pologne russe à cette époque-là, que le polonais, plutôt que le russe, l'allemand ou le yiddish, soit la langue d'enseignement général des jeunes juifs de l'époque. Alors, il va commencer sa carrière donc jeune, très mondain, beaucoup de réussite, et il sera un petit peu un des piliers de ce qu'on appelle l'école de Paris, hein, dans la première école de Paris, qui compte, je dirais, des artistes venus de tout partout autour de l'Europe, et parmi eux, une majorité de juifs. Et par exemple, Valdemar-Georges a été le premier à organiser une exposition Chagall à Paris, pour donner un exemple percutant d'un artiste qu'on connaît tous aujourd'hui. Et puis, petit à petit, il va se radicaliser, mais à droite. Il va fonder cette revue, Forme, où il va développer un petit peu sa perception d'un art néo-humaniste, et c'est cet art néo-humaniste qu'il associera très rapidement avec l'art de la maturité impériale romaine, la Rome antique, évidemment. Et à partir de là, tout ce que fait Mussolini est bien, toutes les initiatives fascistes italiennes vont dans le bon sens, jusqu'au dérapage radical italien de la fin des années 30. Et il sera trop tard, il aura publié plusieurs essais très compromettants. Il va d'ailleurs essayer notamment son livre pour l'humanisme et l'idée de patrie, contacter son éditeur pour essayer de retirer tous les ouvrages. Et puis, alors là, d'homme naïf, si je puis dire, peut-être ne l'était-il pas à ce point, Mais en tout cas, ne voyant pas venir ni la Shoah, ni les percussions les plus radicales, il va se transformer en homme clairvoyant. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura compris qu'il n'y avait plus rien à faire, ni en Italie, il ne sera jamais philo-allemand, il va vite aller chercher sa mère en Pologne, et ils seront tous les deux les seuls survivants de toute la lignée, et il refusera de porter l'étoile jaune à Paris, contrairement à la majorité des juifs parisiens. Donc là, il voyait un petit peu plus clair, il ira se cacher dans le sud de la France, il sera protégé par des amis artistes. Alors là, on voit à gauche la lettre de Desvallières, qui dirigeait le salon d'automne. Valdemar-Georges faisait partie de l'équipe d'experts, de jury, si vous voulez, hein, pour l'accrochage annuel du salon d'automne. Et puis on lui dit, à contre-cœur, nous devons nous passer de vous, voilà, uniquement parce que vous êtes juif, sachez pour des raisons raciales. Enfin, c'est euphémisé dans cette lettre. Sachez que ce n'est pas dans l'esprit du salon d'automne, etc., etc. Et puis il va se cacher. Et chose étonnante, il va se cacher, à travers le réseau, un moment, chez un antifasciste italien, Adelino Fontana, paradoxalement, qui a une petite entreprise de viticulture dans le sud de la France, près de Bouc-Bel-Air. Et on voit notre Valdemar-Georges, là, dans une image absolument formidable, qu'on dirait qu'il était d'un film néo-réaliste italien, vraiment une composition. Alors, les sœurs Fontana... et notre Valdemar derrière, qui donne un petit coup de main à ceux qui l'hébergent. Voilà. Et le voici en 1944, au sortir de sa clandestinité, le visage manifestement tourmenté et affecté par les années de trac. Et puis, Otto Freundlich. Alors Otto Freundlich, c'est une toute autre histoire. Un fond extrêmement riche lui aussi, tout aussi riche que le fond Fougeron dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce sont certainement les fonds, sous le point de vue documentaire, qui sont véritablement extraordinaires. Alors Otto Freundlich, un peintre abstrait, un peintre à l'extrême gauche, très utopiste. Et pour lui, l'art, c'est un langage qui... finalement humaniste de facto, si vous voulez. L'art, c'est un humanisme sans parole, qu'on peut partager. Et, voilà, quand on aime l'art, les jours meilleurs sont devant nous. Alors bon, je résume à fond, si vous voulez, des écrits théoriques pas toujours faciles à suivre, d'ailleurs. Et puis, bien sûr, les années... enfin, l'occupation commence. Il est enfermé dans plusieurs camps, camps d'internement français, si vous voulez. Il finira finalement par se réfugier dans un petit village des Pyrénées. Et un voisin le dénoncera, partira de Rancy et mourra à Auschwitz. Alors, on trouve par exemple sa carte d'identité, son passeport. C'est assez émouvant, c'est étonnant, ce visage effacé, comme s'il y avait là une forme d'anticipation sur le sort qui l'attend. Et puis en bas, on le voit à Saint-Paul-du-Fenouillet ou à Saint-Martin-du-Fenouillet avec sa compagne, Jeanne Kosnick-Kloss. Alors avant, il réussit dans le train de déportation à passer un petit mot à Jeanne par l'intermédiaire d'une infirmière de la Croix-Rouge. Et il dit dans ce petit mot que mon atelier reste, qu'il soit à la disposition de tous les jeunes artistes, ce que Jeanne Kosnick-Kloss fera. Et je regrette que vous ne puissiez pas voir cette photo des années 50 de l'atelier de la rue Henri Barbus à Paris. Alors dans ce fond, Otto Freundlich, par exemple, plein d'éléments qui témoignent de la vie matérielle, la vie quotidienne, si vous voulez, des cartes de rationnement de tabac, de textiles, des cartes à jouer que dans un des camps de rétention français il confectionnera, une lettre qu'il envoie à une amie suisse, Edwige Munchke, si je prononce bien son nom, où il fait ce petit dessin où on voit les prisonniers en attente de libération d'un des camps de transit. Il a été en contact avec Varian Fry à Marseille, du comité d'assistance aux réfugiés. Vous savez, cet Américain qui a réussi à faire passer en Amérique du Nord beaucoup d'artistes et d'écrivains. Et sans succès, finalement. On pense que son dossier a été bloqué aux États-Unis par son passé communiste. Mais ce n'est pas tout à fait avéré. Et à droite, la liste des déportés de son train, où les déportés sont classés par nationalité, roumains, hongrois, allemands, et sous la catégorie juif-allemand, on trouve le nom, donc, d'Otto Freundlich. Jean Hélion, eh ben lui, c'est tout le contraire de ceux sur qui pourtant on a fait des catalogues très épais, très passionnants d'ailleurs et très intéressants, tous ces écrivains et ces artistes qui vont se retrouver à Marseille et qui vont quitter l'Europe pour les États-Unis, hein, Breton, Fernand Léger et tant d'autres. Il y en a au moins un qui a fait exactement le contraire, c'est Jean Hélion, un peintre abstrait qui était installé aux États-Unis depuis 1936, et quand la guerre éclate, il s'empresse de se faire inscrire au consulat américain de sa ville, et il revient en France, il prend l'uniforme et combat dans l'armée française. Bon, c'est la drôle de guerre et tout de suite la défaite, il est fait prisonnier dans le Cher. Alors, il traverse plusieurs stalags, au moins deux, avant de se retrouver sur un bateau prison à Stettin. Alors donc, on le voit là, jeune prisonnier, on le voit ensuite avec des camarades. Alors, un fond extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Et puis, le bananier de Stettin. Ce bateau est un bananier, c'est ce que dit Hélion, transformé en prison. Stettin, qui est une ville aujourd'hui, je crois, qui se trouve en Pologne. Et donc, plusieurs centaines de prisonniers français se trouvaient là. Et chaque matin, il y avait des représentants des petites entreprises, des ateliers de la ville de Stettin, et on prêtait comme ça à l'atelier ou à la petite usine 20 ou 30 prisonniers français pour une journée, deux journées, trois journées, pour donc accélérer la production. Et donc, Hélion réussira à s'évader de son bananier avec un faux passeport. Hélion a le don des langues, et il apprend l'allemand. Probablement qu'il parle allemand avec un accent, mais en tout cas, il arrive à échanger, à faire des conversations très brèves, sans trop être remarqué. Et il arrive à prendre le train, un train pour Berlin, ensuite un train pour l'Ouest. Il lui arrive toutes sortes d'aventures qu'il raconte dans ce livre, « They Shall Not Have Me », qu'il va rédiger en 1943 aux États-Unis, où il va raconter toute sa vie de prisonnier et son évasion. Notamment, il y a un moment assez puissant dans son témoignage, parce que sortant du train qui le mène de Stettin à Berlin, après une première fouille, alors il avait un passeport de quelqu'un blond, 1m85, alors lui, petit et noir, bon, alors il fait mine d'échapper son portefeuille par terre au moment où un barrage policier contrôle tous les passeports. Ça fonctionne, le préposé, enfin, le policier lui dit « ramassez vite vos papiers et perdez pas de temps, il y a la queue derrière ». Il dit « ouf », et faisant quelques pas, raconte-t-il, il croise un de ses gardiens du bananier, du bateau, qui revenait probablement d'un séjour chez lui et tout. Et donc il dit, on s'est regardé droit dans les yeux, et mon garde s'est éloigné. Donc manifestement, ce garde allemand a décidé de laisser sa chance à Hélion. Voilà, ça fait partie des anecdotes particulières de cet ouvrage qui vient tout juste d'être édité aux États-Unis, donc cette année, 2012. Et puis, alors, aux États-Unis, Hélion va donner toute une série de conférences, d'événements, de signatures pour sensibiliser le public américain à toute cette dimension du prisonnier de guerre. Et notamment, il va faire ce petit dessin qu'il va donner à un collectionneur. Et en 1969, ce petit dessin va faire la page couverture d'une revue manuscrite de collectionneurs, d'autographes et tout. Et c'est assez étonnant puisque Hélion donc représente, on peut dire qu'il se représente de manière très schématique, « They shall not have » et sa signature, « They shall not have Hélion », ils n'auront pas Hélion, 1943. Donc là, il y a là véritablement encore une forme d'affirmation un petit peu plus artistique. Alors, le peintre Dado. Alors, Dado vient de mourir l'année dernière. C'était un peintre d'origine macédoine, je pense. Il vient de Macédoine et il vient à l'abbaye d'Ardennes. Je ne raconte pas l'anecdote, c'était déjà très pittoresque. Et il décide que ses archives seront à l'abbaye d'Ardennes et il sort de sa besace un livre dont il déchire les pages devant moi. C'est une espèce d'encyclopédie des oiseaux. Et puis, il me fait 20 oiseaux. À la suite, il reste une heure dans mon bureau et 20 pages, il arrache et 20 fois, il retouche les pages. Il dit, ça, c'est pour l'IMEC, c'est mon premier dépôt d'archives. Je suis content, je viens d'assister à un geste artistique, mais je n'avais pas encore saisi cette passion des oiseaux et pourquoi il considérait que c'était l'archive. C'est plus tard, en devenant familier de sa biographie, j'ai appris que petit garçon, très jeune, avec une fronde, à la demande de sa mère, il allait tuer des oiseaux. Il tuait tout oiseau, petit, gros, exotique, maigre, gras. C'était la seule façon de manger. Et voilà, le thème de l'oiseau est resté chez lui. Et je pense que c'est un témoignage, je pense, indirect, ou en tout cas achronologique, je ne dirais pas anachronique, mais hors du temps de cette Seconde Guerre mondiale. Alors, évidemment, je peux aussi vous parler de l'abbaye d'Ardennes. L'abbaye d'Ardennes est située à Saint-Germain-la-Blancherbe, qui est le plateau dominant toute la région. Et des tours de l'église, on voit bien les plages du débarquement. Donc là, on voit des soldats allemands du détachement de la Hitlerjugend qui avaient pris place là et qui scrutent. On est dans la zone canadienne, Juno Beach, et c'est comme ça que les Canadiens vont littéralement se faire exploser, comme disent les jeunes aujourd'hui dans les lycées. La ligne de défense était de Carpiquet, le petit aéroport à 5 km de l'abbaye d'Ardennes, jusqu'à l'abbaye d'Ardennes, qui était le quartier général du détachement de la Hitlerjugend. Et donc, mortiers, canons à tir direct, panzer, mitrailleuses, tout, étaient retenus à l'ordre qui sera donné de cette tour. Et donc, de Carpiquet à l'abbaye d'Ardennes, tout va tonner au même moment. Et la colonne de Canadiens qui se dirigeait vers la ville de Caen sera littéralement détruite. Voilà, j'aime beaucoup cette photo du milieu parce que les travaux ont commencé, on doit être vers 1946, et on voit les outils de travail. La grange Audim, c'est une vraie fausse grange, vous voyez, on était en 1944. J'ai eu la chance de rencontrer le fils de Marcel Poutarot. Marcel Poutarot est l'architecte en chef des monuments historiques qui, à partir de 44-45, jusqu'à la fin des années 50, sera responsable de la lente restauration de l'abbaye d'Ardennes. Et on trouve notamment dans les archives qui nous ont été confiées ce très beau document, plein de photos, une quarantaine de pages, on en voit quelques-unes ici, où sont sériés tous les travaux de première urgence, de seconde urgence et de troisième urgence. Et donc là, il y a aussi, dans l'histoire de la reconstruction et l'histoire de l'architecture, quelques documents qui peuvent venir de l'abbaye d'Ardennes. Voilà un petit peu l'abbaye d'Ardennes en 1933, qui servait de grange, en 1944 ou 45, et telle qu'elle est aujourd'hui. Je vais terminer mon intervention par une petite lecture, tout à fait hors sujet par rapport à ce qu'on m'a demandé de traiter, mais j'y ai pensé ce matin en écoutant les autres interventions. C'est un témoignage tardif publié dans une revue d'histoire militaire canadienne en 1995. Alors, le témoignage lui-même n'est pas daté, mais il est très postérieur à la prise de l'abbaye d'Ardennes par les Canadiens, un mois après un mois donc de combat acharné. Ce témoignage, je l'ai traduit en français, je vais vous le lire. Il est du capitaine, il faut quand même que je vous dise son nom, Gordon Brown, donc à la tête du détachement du Regina Rifle Regiment. Regina, c'est la capitale de la province qu'on appelle la Saskatchewan, au Canada, et qui prendra le 8 juillet l'abbaye d'Ardennes. Le 8 juillet, l'abbaye d'Ardennes est prise aux Allemands, et le 9 juillet, Caen tombe. Je veux dire, l'abbaye d'Ardennes était vraiment la clé de la bataille de Caen, du moins Caen tombe jusqu'à l'Orne, jusqu'à la... Voilà. Et donc, ce témoignage, je le trouve touchant parce qu'il est décalé, bien sûr, je l'ai dit, sans remarque acerbe ou sans haine pour l'ennemi, disons, et surtout extrêmement étonnant au point de vue de ce qui peut se jouer dans le fort intérieur d'un individu qui traverse ce genre d'événement. Alors, j'y vais. Aux premières heures du jour, j'ai pris des dispositions. Alors, l'abbaye d'Ardennes a été prise. Donc, aux premières heures du jour 1, j'ai pris des dispositions afin que les compagnies Able et Doug se retranchent dans l'abbaye et occupent ses bâtiments. La vieille église, comme les autres constructions, avait été durement touchée. Les parties incendiées se consumaient encore. Ces bâtiments offraient une certaine protection contre les tirs d'obus dirigés sur nous à partir du sud de Carpiquet. Ces obus de gros calibre continuaient néanmoins à percevoir leur dû. Un tir a touché le lieutenant Hall là et son ordonnance, tuant le soldat et laissant Hall inconscient. Malgré ces bombardements réguliers, nous avons pu jeter un coup d'œil ici et là à l'intérieur de l'abbaye et constater un certain nombre de choses intéressantes. Nous avons vu un important central téléphonique de campagne détruit par un tir direct. Plusieurs cadavres de SS gisaient près de là et ailleurs dans l'abbaye. Dans un garage se trouvaient deux motocyclettes appartenant au Regina Rifle qui nous avaient été pris à Bradville un mois plus tôt, ainsi que des véhicules civils certainement confisqués par les hommes de Kurt Meyer. Évidemment, nous ignorions alors tout des soldats du North, Nova Scotia Highlanders, qui étaient enterrés quelque part sous nos pieds. Puisque les SS d'Aistalogun avaient pris 20 prisonniers qu'ils ont exécutés aussitôt dans le jardin de l'abbaye d'une balle dans la tête. Heck Jones m'amena jusqu'à un dépôt d'alcool gardé par un berger allemand. Il avait tué le chien avant de découvrir cette imposante réserve de vin, de champagne et de spiritueux. Il me guida également jusqu'à un lieu qui, je pense, avait été la chambre à coucher de Kurt Meyer. À côté d'un lit joliment fait, il y avait une corbeille de cerises. Nous avons bu du champagne et mangé les cerises. Je me suis ensuite assoupi. Heck m'a laissé seul afin que je trouve un peu de ce sommeil dont j'avais tant besoin. Je ne me suis jamais excusé pour ce comportement. Je n'aurais peut-être pas dû céder à la tentation de boire et de dormir à un tel moment. Cependant, il faut bien admettre que j'étais au bord de l'épuisement physique et mental après avoir vécu un mois dans un enfer total.